Terre des Hommes. L'émission qui donne la parole aux étudiants étrangers, proposée par le service du recrutement international de l'Université catholique de l'Ouest.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue sur le studio de Radio Campus. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, c'est Jean Robin au micro, dans notre émission Terre des Hommes qui donne la parole aux animateurs de la mobilité internationale étudiante, aux étudiants, à leurs coachs, à leurs accompagnateurs. Et aujourd'hui dans le studio, j'ai la grande joie d'accueillir monsieur Abdoulaye Diallo. Salut Abdoulaye.
Bonjour Jean.
Et tu viens du Mali, tu rentres tout juste du Mali, tu as atterri avant-hier soir, tu vas nous raconter ce que tu fais au Mali, ce que tu fais à Angers pour ces jeunes que tu souhaites former pour revenir dans leur pays. On se retrouve dans un instant.
Terre des Hommes.
Abdoulaye, écoute, donc tu es atterri, tu es rentré de Bamako il y a combien de temps?
Moins de 24 heures.
Moins de 24 heures, pas trop fatigué?
Un peu oui, mais j'ai commencé à récupérer depuis hier soir.
D'accord, ça. Super. Donc tu es rentré à Bamako, comme tu fais d'ailleurs à peu près, pour te présenter auprès des auditeurs, tu es franco-malien.
Oui.
Donc tu es à la fois français et malien. Tu es marié de française d'ailleurs.
Marié de française.
Tes enfants sont ici, et tu passes presque la moitié de ton temps et de ta vie au Mali, pour t'occuper des jeunes. Est-ce que tu peux nous dire, Abdoulaye, pourquoi tu as choisi ce mode de vie? Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'occuper des jeunes là, au Mali, dans cette particularité de son histoire aujourd'hui, dans ce moment particulier de cette histoire du Mali et de ces jeunes là qui attendent et qui ont besoin d'aide? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Voilà, tout est parti de mon expérience vécue. Moi-même, depuis avant le bac, je souhaitais venir en France. Après le bac, j'ai pas eu cette chance. Et même avant le bac, j'ai été victime d'une suspension parce qu'à mon temps, pour les histoires de grève, l'État ou le gouvernement du moment avait fermé les écoles pendant presque 3 années scolaires.
Donc tu n'as pas pu finaliser ton bac, en fait?
Je l'ai finalisé 3 ans après.
Waouh. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 années d'attente?
Ben, mes parents m'avaient envoyé d'abord en Côte d'Ivoire, où je n'ai pas pu être inscrit parce que ma seconde langue au lycée, c'était le russe. Wow. Et on n'en faisait pas en Côte d'Ivoire.
D'accord. Et donc, tu parlais français?
Je parle français. J'ai toujours été dans le monde francophone, le Mali étant un pays francophone. Et fils d'instituteur, je parle français. Après, ils m'ont envoyé à Dakar.
Au Sénégal.
Au Sénégal. Donc, mais après différentes complications, ils m'ont fait revenir parce que quelques mois après, l'école devait s'ouvrir au Mali.
D'accord.
Je suis revenu au Mali, passer mon bac. Là encore, je voulais sortir pour étudier. Je n'ai jamais eu d'inscription ou de bourse. À l'époque, c'était beaucoup plus les bourses. Et je suis allé à ce qu'on appelait à l'époque l'école d'administration de Bamako, où j'ai passé une maîtrise en droit public.
Et après cette maîtrise, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ta carrière? Parce qu'en fait, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Où est-ce que ça t'a amené cette maîtrise et qu'est-ce que tu as fait plus tard?
Après cette maîtrise, comme j'aimais beaucoup l'anglais, donc j'avais un niveau relativement bon, j'ai pu commencer par un stage à l'USAID, qui est l'Agence américaine pour le développement international.
Tout à fait.
En anglais, c'est United States Agency for International Development. Je suis resté presque 12 mois comme assistant du Financial Management Specialist. Mais dans le système américain, tout est sur des budgets.
D'accord. Donc, quand il n'y a plus de budget, ça s'arrête.
Voilà, ça s'est arrêté. Mais ils m'ont envoyé sur d'autres financements américains à l'Institut d'économie rurale.
D'accord. Toujours au Mali.
Toujours au Mali. Je suis resté plusieurs années.
Qu'est-ce que tu faisais?
Ben, j'étais assistant du Financial Management Specialist, puisque j'avais été initié à la comptabilité. L'INTEC avait ouvert à Bamako. Et moi, je m'étais inscrit en cours du soir.
D'accord.
Pour passer le BT. Le DUT français en compta-gestion.
Et à ce stade-là précis de ta vie, tu n'étais encore jamais allé en France?
Je n'étais pas sorti. Je n'avais vu que les pays voisins du Mali, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal.
Et ensuite, quand vient ton histoire où finalement tu décides de partir en France? À quel moment est-ce que tu décides de partir en Europe et pour faire quoi?
Non, d'abord, depuis le bac, je voulais aller aux États-Unis. Parce qu'à l'époque, les États-Unis donnaient plus de bourses. Et j'avais vu des gens revenir qui avaient une meilleure situation. Et comme moi, j'aimais bien l'anglais, je souhaitais aller aux États-Unis pour être bilingue.
D'accord.
et avoir une bonne formation en management. Mais il y avait des programmes de bourse, notamment le programme DLT, Development Leadership Training. À la longue, ils ont donné l'avantage à ceux qui font, qui étaient dans le domaine scientifique. Donc moi, je n'ai pas eu la chance. Mais après, j'ai choisi une autre chance qui était d'aller faire un programme de MBA à l'école de la Banque Centrale des Alpes de l'Ouest à Dakar, dans une école appelée CESAG.
Donc tu es retourné au Sénégal?
Je suis allé au Sénégal où j'ai fait mon programme de MBA en 18 mois.
En anglais? Et c'était enseigné en anglais?
Non, c'était enseigné en français.
D'accord.
Et là, j'ai bénéficié d'un financement de la coopération belge.
D'accord.
Et j'ai fini ce programme. Je suis resté un an à Dakar, à travailler dans un cabinet. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi ne pas les compléter? Compléter, c'est aller, par exemple, dans un pays anglophone comme les États-Unis, apprendre davantage de l'anglais et revenir. Parce que moi, j'ai toujours eu ce penchant libéral. Je comptais revenir au pays, conseiller les entreprises nationales et étrangères. Donc, la maîtrise de l'anglais me permettait, par exemple, si une entreprise anglo-saxonne me demandait une étude, de la sortir en double version.
Français et anglais.
Voilà. Donc, j'ai voulu aller aux États-Unis. Dans un premier temps, un beau-frère devait me recevoir avec ma famille. Après, à la dernière minute, il a dit non. Il ne pouvait plus. Ma femme m'a rappelé que j'étais binational, que l'on pouvait venir en France. Et je devais la déposer avec mes deux enfants et aller en éclaireur si ça marche. D'accord. Sinon, on retourne. Notre projet, c'était à Bamako.
D'accord.
On est venu et puis finalement, je suis resté. Les enfants étaient à bas âge. Il fallait les aider, les encadrer.
Bien sûr.
Donc, après ça, maintenant, j'ai pensé à retourner au Mali, toujours dans le domaine de l'école. J'ai voulu lancer une école d'enseignement supérieur. Mais ce n'était pas au bon moment finalement. Parce qu'en ce moment, il y avait trop de... Pendant plusieurs années, il y avait beaucoup de grèves. Tantôt, c'est les étudiants qui sortaient. Quand ils rentraient, c'est les profs qui sortaient. Donc, j'ai dû sursoir ce projet.
D'accord.
Et un jour, je causais avec quelqu'un qui m'a parlé de recrutement. Alors, j'ai dit, ah bon? Je suis venu à l'UCO, demander le bureau de relations internationales. J'ai vu les responsables, j'ai proposé. Ils ont pris le temps de réfléchir et de me demander un certain nombre de choses, et ils me l'ont donné. Là, je devais commencer avec le Mali et le Burkina, parce que la Côte d'Ivoire était prise. L'avantage que moi j'ai dans ce domaine en Afrique de l'Ouest, c'est que le Mali est un pays central.
C'est ça.
Je connais du monde dans tous les pays voisins, et souvent c'est les mêmes langues, et c'est les mêmes familles souvent.
Oui, ce qui est intéressant avec toi, Abdoulaye, et je le dis vraiment à nos auditeurs qui nous écoutent, c'est que, en fait, tu as une triple expérience culturelle. Tu es malien d'origine, marié à une française, tu as fait tes études, une partie en tout cas financée par des bourses américaines, où tu parles bien l'anglais, donc tu as compris en travaillant pour des institutions américaines la culture américaine qui est quand même assez différente de la culture française, moi-même ayant vécu 3 ans aux États-Unis, je le sais. Donc tu as à la fois cette culture un peu, j'ai envie de dire, américaine, je le sens bien, malienne et africaine profondément, mais également française. Et ça fait de toi ce que nous, on en aime bien dire, recrutement international de l'UCO, un citizen of the world. Tu es un peu un citoyen du monde quelque part. Tu te balades facilement entre la vision du monde américaine qu'on connaît, la vision française, parce que tu vis en France d'ailleurs, à Angers, et puis tu es profondément malien. Tu as encore de la famille au Mali d'ailleurs.
Ah oui, j'ai de la famille au Mali. Je n'ai plus mon père et ma mère, mais mes frères et sœurs, mes cousins, la famille élargie en Afrique, c'est très important.
Très important.
Tout le monde y est.
Donc voilà, tu as vécu cette triple intégration culturelle, et aujourd'hui, tu mets tes compétences culturelles au service des jeunes maliens en vue de les aider à acquérir des compétences diplômantes, licence, master et ingénieur et doctorat. Et c'est ce dont nous allons parler dans la prochaine partie de cette émission. Abdoulaye, tu pourras peut-être nous entretenir, mais qu'est-ce que tu fais pour tous ces jeunes et comment tu le fais? À tout à l'heure. We'll be right back. Voilà, nous sommes absolument ravis d'accueillir sur ce plateau de Radio Campus Abdoulaye Diallo. Alors, franco-malien avec une expérience triplement culturelle, comme je l'expliquais tout à l'heure, américaine, française et malienne. Et alors donc, Abdoulaye, tu rentres il y a 24 heures de Bamako. Et bien justement, explique-moi s'il te plaît, est-ce que tu peux aussi expliquer à nos auditeurs et auditrices, mais qu'est-ce que tu faisais à Bamako? Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu fais pour les jeunes de ton pays, je parle des Maliens, dans le domaine de la formation et de la mobilité internationale étudiante? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien?
Alors, au quotidien, c'est une ambition personnelle. J'essaie de donner aux jeunes Maliens leur chance.
D'accord.
L'école au Mali a souffert pendant très longtemps et à partir de mes vécus, je disais tantôt que moi-même, j'ai été victime de suspension. J'ai perdu 3 années scolaires.
3 années de grève. Waouh.
Non, c'est le gouvernement même qui avait tout fermé.
Tout à fait, mais j'avais compris ça, effectivement.
Mes parents, avec leurs maigres moyens, ont voulu me sauver autrement en m'envoyant en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Finalement, je suis revenu passer le bac au Mali. J'ai fait des supérieurs au Mali. Donc, au Mali, il y avait même des questions d'orientation. C'est l'État qui décidait après le bac, par exemple, de ce que toi, tu dois faire.
C'est-à-dire que tu sortais du bac et en gros, on t'affectait dans l'école que l'État avait choisie pour toi.
Pour toi.
Et donc, la formation que l'État avait choisie pour toi.
Oui, c'est la formation.
Et donc, si je continue, le métier que l'État avait choisi pour toi.
Oui, c'est le métier que l'État avait choisi pour moi.
Et ça marchait, ça ?
Ça n'a pas marché parce que...
Bien sûr.
À ma sortie de cette école, l'État ne recrutait plus sur les injonctions des institutions du système de Bretton Woods.
Ah d'accord, bien sûr.
Et c'est qui nous a tous obligés d'aller vers les ONG, les projets de développement.
Les accords de Bretton Woods pour les éditeurs qui nous écoutent.
Ils demandaient à l'État de réduire son train de vie.
C'était le système de financier international, voilà. avec la parité avec le dollar, et etc. Enfin, c'est tout.
Donc, on avait, l'État qui est le premier recruteur dans le pays ne recrutait plus.
D'accord.
On a souffert de tout ça. Donc moi, aujourd'hui, je fais le recruteur quelque part pour rendre service.
Tu as envie d'aider les jeunes ?
J'ai envie d'aider les jeunes.
Qu'est-ce que tu fais pour eux ?
Un jeune qui me vient, ou même quand il ne me vient pas, je communique pour dire que venez, moi je peux vous aider. D'abord, on va parler d'orientation. Vous venez d'où ? Vous avez quel bac ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? S'il y a lieu de le conseiller sur son choix, je le fais. Ou sinon, je l'aide à trouver une inscription.
Dans une école qui correspond à son projet.
Qui correspond à son projet.
Tout à fait.
Et c'est dans ce travail-là que je suis avec l'UCO.
Et c'est facile pour toi parce que tu habites à Angers et tu es français, et tu es aussi malien, donc du coup tu es des deux côtés de la barque, ou en tout cas de la rive, pour pouvoir au départ accompagner ce jeune, l'orienter et l'accueillir ensuite ici.
Voilà. Donc, ce qui m'amène à voyager plusieurs fois, donc je suis presque... En même temps à Bamako qu'à Angers.
D'accord.
Je viens de Bamako, j'ai passé 4 mois. Par moment, dans cette histoire de recrutement, il faut être sur le terrain.
Absolument.
Il faut parler aux gens.
Tu rencontres les parents ?
Je rencontre les parents. D'ailleurs, de plus en plus, j'exige de rencontrer les parents.
Qu'est-ce qu'ils te disent aujourd'hui, les parents, au XXIe siècle, en 2022, là, et bientôt 2023, qu'est-ce qu'ils te disent, les parents ? C'est quoi leurs inquiétudes pour leurs petits ?
Les parents sont inquiets, il y a plusieurs raisons. Les difficultés financières, est-ce qu'ils pourront assumer les charges ? Aussi, vu la différence culturelle, changement d'environnement, est-ce que quelque part, envoyer son enfant de 16 ou 18 ans ou même 20 ans en France ne serait pas le perdre plus tôt ?
Oui. Ils ont peur qu'ils ne reviennent pas.
Ils ont peur qu'ils ne reviennent pas. Parce que par le passé, il y a eu des expériences comme ça.
Bien sûr.
Donc, moi, je leur fais voir l'intérêt de la chose. Un enfant, même à 17 ans, peut avoir un projet.
Bien sûr.
Peut avoir une maturité, savoir ce qu'il veut faire, ce qu'il veut devenir. Je fais un sondage, ça dit que je vois l'enfant, je discute avec lui, je regarde son parcours.
Tu lui fais faire des tests ?
Bon, pas des tests, mais je jauge son niveau par son projet d'études et son projet professionnel.
D'accord.
Parce que même s'il y a des choses à corriger, j'exige d'abord que lui-même mette sur papier... C'est ce qu'il veut.
Qu'il s'exprime lui-même.
Qu'il s'exprime lui-même.
Sans les parents dans son dos.
Sans les parents dans son dos. Donc, avec cet écrit, moi, je l'aide à améliorer.
D'accord.
À faire les bonnes phrases et tout. Mais déjà, je sais ce qu'il veut. Et j'essaie de voir si vraiment c'est ce à quoi il tient. Et si c'est ce pourquoi il veut se battre.
Donc,
les parents, qui sont les financiers, je peux leur dire, oui, l'enfant veut faire ça. On peut l'accompagner, on peut l'aider. À faire ça.
Et c'est là que tu présentes le catalogue de l'Université catholique
de l'Ouest
pour lui dire, écoutez, j'ai telle ou telle formation ou programme qui pourrait convenir à votre enfant, et si jamais il n'y a pas dans le catalogue de l'UCO ce qu'il recherche, tu as un autre catalogue, celui de Consortium International d'Éducation. Donc au fait, aujourd'hui, tu es en mesure de pouvoir proposer à ce jeune un vrai parcours éducatif et universitaire.
Oui,
en fait.
Le panel est vraiment large.
Le panel est large.
Ouais, donc je le propose ça.
Mais alors, tu disais tout à l'heure au début de l'interview que, quand même, le Mali traverse des difficultés économiques, que les parents ne sont pas forcément très riches. Or, venir étudier en France, quand même, la scolarité, le billet d'avion, les assurances, que ce soit dans le public ou le privé, au fond, ça coûte cher quand même de venir étudier en France. Comment est-ce qu'ils font, les parents ? Tu t'adresses qu'aux familles très riches ou alors ils trouvent d'autres moyens ? Comment ça se passe, en fait, pour financer tout ça ?
Au début, c'était les familles qui avaient vraiment les moyens, comme on disait.
D'accord.
Mais de plus en plus... En très peu de temps, les choses sont en train de changer.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, quand ils sont inquiets, parce que dans cette histoire de recrutement, il y a souvent des délais.
C'est ça.
Il faut réagir à temps. Les nouvelles technologies m'aident. Que je sois à Bamako ou à Angers, on peut me contacter.
Donc tu suis tout le monde, même si tu es à Angers ?
Même si je suis à Angers.
Tout à fait.
On m'appelle à toute heure. Je permets aux gens de m'appeler jusqu'à 22 heures de Bamako.
Mais comment tu règles l'aspect financier ? Est-ce que les gens, ils se cotisent dans la famille pour le petit ? Est-ce qu'ils vont chercher des fonds qu'ils avaient ailleurs avec d'autres relations familiales ? Comment est-ce qu'ils constituent l'enveloppe budgétaire qu'il faut pour venir étudier en France ?
Ben, au Mali, il y a culturellement une certaine solidarité.
C'est ça.
Un enfant qui veut venir, ce n'est pas forcément le papa ou la maman qui sort l'argent de la poche.
D'accord.
Ça peut être d'abord le premier siècle, le ou les frères et sœurs.
Qui sont peut-être eux-mêmes à l'étranger.
Ou qui sont peut-être même eux-mêmes à l'étranger, ou à Bamako, qui travaillent, qui ont des bons boulots, ou qui sont en mesure de financer. Il y a aussi la famille, le tonton, la tante, les frères et cousins.
Ça, c'est extraordinaire ce que tu dis, et je le sens bien pour avoir vécu un peu en Côte d'Ivoire aussi. En France, on ne peut pas l'imaginer, ça. Cher auditeur, je voudrais juste vous donner la comparaison. Vous imaginez que dans votre famille, vous avez un enfant qui veut partir étudier en Angleterre et que ça coûte 10 000 euros par an. Voilà. Et vous, vous ne pouvez pas payer ça. Alors vous faites appel à vos beaux-frères, à vos belles-sœurs, aux cousins de votre enfant ou aux oncles qui sont déjà installés dans la vie, et vous leur demandez de vous aider, voire même de totalement financer ces études. Et dans la solidarité familiale africaine, eh ben, ça se passe comme ça, ça marche, les gens répondent présents. C'est ça que tu dis ? Les gens, la grande famille élargie, ils vont se cotiser pour financer un enfant qui n'est pas directement leur enfant, en fait.
Oui.
C'est extraordinaire ce que tu dis, parce que nous, en France, excuse-moi de te le dire, mais certes, ça arrive, parce que les Français sont si généreux, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je ne vois pas une famille française financer les études d'un cousin fut-il proche. Ça ne se fait pas si facilement que ça. Ça peut se faire, mais ce n'est pas si simple. Pourquoi c'est plus simple chez vous ? Qu'est-ce qui fait que la solidarité familiale africaine est si forte ?
Mais ça, ça date de très longtemps. Mmh. C'est vraiment dans notre culture de s'entraider. Et c'est très important. Moi, je connais des familles qui vivent bien au Mali, mais ce n'est ni le père ou la maman qui finance
les études,
même le repas à la maison.
Waouh! Waouh!
Si le cas se pose, par exemple, un enfant qui a un travail contribue à la famille. S'ils sont deux ou trois, leur contribution constitue ce dont la famille a besoin.
Toi, Abdoulaye, c'est peut-être une question un peu osée, mais tu n'es d'ailleurs pas obligé d'y répondre. On est tout à fait en transparence à Radio Campus. Est-ce que tu aides des gens de ta famille à Bamako avec le témoignage que tu as en France?
Oui.
C'est ça.
J'aide des gens parce que moi-même, moralement, c'est une obligation.
C'est ça.
Par exemple, en février 2001, j'ai perdu un de mes frères aînés. Et il m'a laissé deux garçons et une fille. Le premier garçon, bon, il n'a pas passé au bac, mais il fallait le financer au niveau supérieur. Pour le moment, au niveau lycée, c'est l'État qui prend tout en charge, mais il fallait le faire.
Donc tu l'as pris comme ton propre enfant ?
C'est mon enfant.
Oh là là.
Dans notre langue même, on le dit. C'est mon enfant.
Extraordinaire.
Même du vivant de son père, c'est mon enfant. Je peux concerter le papa pour tout ce qui le concerne, mais quand je pose mon truc, le papa ne me contredit pas. Dans notre culture, c'est mon enfant à moi.
C'est ça.
Voilà.
Et tu as accueilli combien d'étudiants maliens là, de ces derniers temps à l'UQO ou à Angers ? Tu en as accueilli quelques-uns ?
Ah oui, j'en ai accueilli beaucoup. Et puis d'ailleurs, cette année, en dépit des difficultés dans le pays, j'ai pu recruter.
C'est ça.
Parce que les gens sont restés à hésiter.
C'est ça.
D'abord, ce n'était pas une hésitation. Il y a eu vraiment une conjoncture économique difficile.
Et puis, il y avait le Covid.
Il y a eu le Covid. On a hésité. En inscrivant l'enfant, en payant, est-ce que l'enfant va pouvoir venir? Ensuite, pour des raisons au niveau sous-régional, le Mali a été victime d'un embargo.
Tout à fait.
Donc, pendant au moins 6 mois, ce qui a beaucoup à faire, appauvrir les familles. Puisque l'économie était vraiment à genoux. Donc, les gens se relèvent un peu. Moi-même, je ne m'attendais plus à cet engouement que j'ai vu cette année. Et les gens viennent, font des efforts pour payer. Et comme je disais tantôt, ce n'est pas l'individu, c'est-à-dire le papa, le chef de famille seul qui paye, mais la famille qui contribue.
Donc, tu as une vraie responsabilité, parce que quand tu accueilles un jeune Malien dans un master ou une licence ici à l'UQO, tu sais que derrière, il y a toute une famille élargie qui s'est cotisée. Et qu'il ne s'agit pas de rater le truc quand même. C'est-à-dire que toi, en tant qu'intermédiaire, en gros, entre les familles maliennes et notre université ici à Angers, tu as une sacrée responsabilité. Comment tu le ressens, ça ?
Bon, tout naturellement, je fais face à la situation. Je peux prendre le cas de deux de mes candidats, dont les financements viennent de France.
D'accord.
Parce qu'ils ont des parents immigrés ici.
Donc des cousins, des cousines.
Des cousins et des cousines.
Que tu es allé activer pour leur faire financer la formation.
Oui. L'étudiant me dit, j'ai l'inscription, mais il faut que mon cousin et mon oncle et je ne sais qui encore, mon beau-frère, qui sont en France, se mettent ensemble pour financer.
Waouh. Ça, c'est une sacrée solidarité financière.
Voilà.
De quoi on va terminer l'émission ? On pourrait discuter pendant des heures, Abdoulaye. Mais j'aimerais te poser une dernière question. C'est de quoi es-tu le plus fier depuis que tu fais ce travail ? Ce travail de recrutement international. C'est un mauvais terme, au fond, le recrutement, parce que ça donne l'impression de connotation business. Mais en fait, tu fais plutôt de l'accompagnement à la mobilité internationale. Mais de quoi est-ce que tu es le plus fier ? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer, en fait ?
Le fait d'avoir pu aider. Le fait de croire que je pourrais faire plus. Et c'est en train de venir parce que de plus en plus, on me connaît et on me vient. Moi, il y a des projets, des ONG qui parlent de réduction de la pauvreté et autres. Moi, je pense que je suis un acteur important dans ce rôle.
C'est ça. Tu formes des jeunes.
Aider les jeunes à se former, comme la solidarité existe chez nous, ces mêmes jeunes, en ayant de bonnes formations, auront de meilleurs boulots. Ou s'installeront à leur compte, créeront de la richesse pour contribuer à la réduction de la pauvreté.
Tout à fait. C'est magnifique ce que tu dis.
Ils viennent de chez nous. Aussi, c'est ma pierre à la construction et au développement de ce pays. Le pays se construit d'abord par les hommes, à mon avis.
Et il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais ça serait beaucoup mieux de construire des universités chez vous pour qu'ils puissent se former chez vous. » Et moi, là, du coup, j'ai envie de répondre. J'ai dit « Mais les amis, vous avez raison. Mais construire une université dans un pays qui est en train de se développer, ça prend beaucoup de temps, des décennies. » Et qu'en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Ou on aide les jeunes de ces pays à se former, nous, dans nos vieux pays qui avons des universités dans toutes les villes, ou on n'accueille pas ces jeunes et on laisse grandir la misère, et de toute façon, ils nous reviendront sous forme d'immigration illégale parce qu'ils veulent, ils veulent vivre. Et toi, tu as dit, bah non, moi, je vais les accompagner pour se former, en attendant que ce pays ait assez d'universités, et ça viendra peut-être un jour, pour qu'ils aient une expérience du monde et qu'ils reviennent au pays pour servir le pays. C'est ça que tu fais, en fait.
C'est ce que je fais. Et souvent, je réponds à certaines questions. Quand on me dit... Par exemple, un enfant qui arrive avec une licence de Bamako, on lui dit de reprendre la licence. Il dit, mais non, mais le diplôme... J'ai dit non. Les contenus des programmes diffèrent. Ces universités françaises ont une certaine expérience. Ces universités françaises, dans le domaine même des sciences, ont du matériel qu'on ne trouvera pas forcément dans les mêmes programmes de licence à Bamako.
Les laboratoires.
Les laboratoires bien fournis et tout, tout, tout. Et des hommes expérimentés qui sont là pour former. Un laboratoire, ce n'est pas un mur, ou des murs. Il faut du contenu, il faut des compétences pour faire la chose. Je suis parfaitement d'accord pour ça. Je pense que, même avec le temps, nos pays mettront du temps pour avoir ou être au même niveau qu'ici.
D'accord.
Donc, un enfant qui peut avoir la chance de venir ici, il n'a qu'à venir. C'est ce que je conseille là-bas.
Chers amis, auditrices et auditeurs, voilà, cette émission se termine. Abdoulaye, merci beaucoup. C'est très touchant ce que tu dis. Moi, j'aimerais tellement... que dans notre société occidentale française, nous ayons cette capacité à la générosité intergénérationnelle et de cette famille élargie. Et je sais que ça existe en France, il y a beaucoup de générosité, bien sûr, c'est une certitude, mais elle est tellement évidente chez vous, les frères africains, c'est tellement évident chez vous que ça nous fait un tel bien dans une société chez nous qui est de plus en plus égoïste et auto-centrée sur elle-même, que vraiment je te remercie de tout ce que tu as dit, parce que ça fera du bien, je crois, à beaucoup de monde. En tout cas, Abdoulaye, merci beaucoup. Bonne chance. Donc, tu es au séminaire aujourd'hui avec tous tes frères représentants officiels de l'UCO. On est une vingtaine, on passe un moment fabuleux, on discute entre nous comment aider nos jeunes. Et toi, tu y es à toute ta place. J'étais avec toi à Congo-Brazzaville au mois de février dernier où tu es venu à un autre séminaire où tu as aussi pris toute ta place et tu étais chez toi, pratiquement dans tes terres. Et c'était très touchant de voir le travail que tu fais. Voilà, merci beaucoup Abdoulaye.
Merci. Merci Jean.
À très bientôt.
À très bientôt.
Chers amis, à très bientôt. Et la prochaine émission, eh bien, nous allons accueillir David Edan. Alors lui, il a un chemin très particulier parce qu'il est un franco-togolais et il a beaucoup de choses à nous dire et je vais l'accueillir la semaine prochaine. À bientôt à tous. Bye bye, ciao.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.